Marceau le midi.
On aime ce que vous faites.
All right.
J'ai l'impression que je vais avoir une investisseuse avisée dans les prochains jours, prochaines semaines. Chaque fois que Pat arrive, je vois ses yeux. Investir, je vais devenir milliardaire.
Mais moi, j'investis déjà. Hic étant, je suis pas quelqu'un de ferré. Fait que j'ai eu besoin de professionnels autour de moi. Mais j'aime bien ça parler à différents professionnels aussi.
Ben oui.
Puis je raconte toujours, tu sais, on oublie là, mais d'aller consulter jeune, c'est une affaire que j'aurais aimé.
Pour les finances, ben oui.
Oui, tu sais, moi, je l'ai fait dans mon début vingtaine. J'aurais bien aimé ça le faire à 16. Tu sais, il y a quelque chose dans ma vie qui est arrivé. Puis j'ai eu un certain montant, puis je me rappellerai toujours l'ignorance de la personne à ma banque, soit caisse, qui était devant moi, qui ne savait pas trop quoi faire, puis comment me conseiller.
Fait, finalement, tu as tout passé ça dans la drogue.
La drogue, l'alcool.
Il aurait pas fallu que tu
fasses ça. Le rock'n'roll, quoi.
13h22, on s'en va le rejoindre, Jérôme Blanchet-Gravel. Je sais pas s'il est arrivé en Europe, là. Je sais qu'il s'en va en Europe prochainement. Salut, Jérôme.
Bonjour à vous deux.
T'es-tu en France, là, présentement?
Non, je pars ce soir de Québec. C'est rare, très, très rare. On s'offre ce luxe-là cette fois. L'aéroport de Québec sert encore à quelque chose. Non, mais honnêtement, ça soulage parce que toujours partir de Montréal, on sait, ça rallonge.
Ah, c'est
donc, on va être littéralement porté. Je dis « on » parce que ma femme m'accompagne dans cette tournée médiatique annuelle.
Ferme ton sel, là, mon Jérôme.
Oui. Moi, je suis un peu... un peu maladroit à côté technologie. Là.
Ouais. Mais c'est vrai que quand tu peux partir de Québec, ça complique beaucoup moins les choses. Là, tu t'en vas là en tournée médiatique, tu vas faire un peu de radio. T'as-tu quelques entrevues de bouquet déjà, ceux de radio, je pense?
Apparemment, oui. Ça se confirme. Puis des médias indépendants aussi. Puis à Libre-Média, ben, on tourne trois grandes entrevues minimum durant cette semaine-là. Donc, notamment Christian Rioux, là, j'ai d'autres noms annoncés. Donc, le correspondant du Devoir à Paris qui va nous livrer ses impressions sur bon, l'état de la société française, etc. Puis un peu l'élection de Donald Trump vue de France. Ça va être intéressant. C'est toujours des gros marathons, je te dirais. C'est des tournées bien occupées, mais on aime ça comme ça. Fait que, puis Libre-Média est en plein développement. Non, c'est stimulant.
Jérôme Blanchet-Gravel, comment ça peut arriver au Québec, ça, que dans des garderies qui sont financées par nous-mêmes, par nous, payeurs de taxes, on a encore des critères de sélection concernant l'appartenance religieuse ou encore l'ethnie des enfants? C'est surprenant que ça peut arriver encore en 2024. Hein? C'est comme si, à l'inverse, on faisait « bon, ben moi, j'ouvre une garderie, puis je veux qu'il y ait uniquement des enfants blancs ». Ça aurait comme pas de bon sens, là.
Disons que ça passerait pas très bien, on aurait beaucoup d'associations sur le dos, mais effectivement, on s'aperçoit que des communautés culturelles, elles, se permettent effectivement de réserver leurs établissements à des enfants de cette communauté-là. Donc là, écoute, c'est la presse qui a sorti ça ce matin, un excellent dossier. Il faut quand même souligner encore, quand il y a des bons coups dans les médias traditionnels, je pense qu'il faut les souligner, ça en est un. Donc, la presse qui nous apprend ce matin qu'effectivement, 36 garderies financées, comme tu le dis, par les contribuables, par l'État, sélectionnent les enfants selon des critères ethniques. Donc là, ça touche évidemment c'est ça, la race, l'appartenance, l'identité. Ça concerne bon, beaucoup d'écoles de garderies juives là-dedans, mais aussi bon, la communauté grecque, la communauté arménienne, haïtienne et chinoise. Donc, ça englobe beaucoup de gens. Donc, on s'aperçoit, Marceau, que, tu sais, on parle beaucoup de vivre ensemble, mais on est beaucoup dans un vivre séparé. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a un phénomène de ghettoisation, en particulier à Montréal. Il va falloir faire attention à Québec de ne pas reproduire ce genre de modèle-là. Parce que, on veut, dans une société libérale, ouverte, on aime, enfin, on suppose que les gens vont se mélanger, finalement, qu'ils vont partager. C'est ça. Le vivre ensemble, c'est ça. Hein. Alors que finalement, on est devant, c'est ça, plutôt des... c'est de la ghettoisation.
Ben, l'idéal, ce serait que, Jérôme, que les gens s'intègrent. Là. Mais tu sais, la ghettoisation, on la voit aussi chez les Québécois qui s'en vont en Floride. Tu sais, s'en vont en Floride puis ils s'unissent. Là, tu t'en vas en Europe. Ben, je veux dire, les cités en France, c'est une catastrophe là, au niveau de la ghettoisation. Ces gens-là ont de la misère à se trouver des emplois, vivent entre eux. Il y a énormément de drogue, énormément de pauvreté, énormément de violence. Même les policiers qui ne vont pas faire la sécurité dans ces secteurs-là parce qu'il y a un danger. Pour eux. Je veux dire, on ne veut pas reproduire ce type de modèle-là. Là.
C'est ça. Et comme tu le soulèves, la question qu'on peut poser, est-ce qu'il y a quelque chose de naturel chez l'humain à finalement se regrouper selon son groupe d'appartenance premier? On peut penser que oui, effectivement, s'il y a des Québécois, remarque pas, beaucoup de quartiers québécois, là, au-delà de la Floride, il faut dire que les Québécois ne sont pas très nombreux, là, mais les Québécois, vraiment, c'est vrai qu'ils sont bons pour se ghettoiser aussi au Mexique, etc., dans les stations balnéaires. Donc, on a tendance, puis même les Québécois, on est quand même, qu'on voit un autre Québécois en voyage, souvent, mais on est quand même généralement content de le saluer, du moins. Donc, tu sais, on est toujours content de se retrouver entre nous, entre guillemets. Donc, il y a quelque chose de naturel. Par contre, c'est ça, c'est quand ça devient extrême et qu'on réserve carrément un certain nombre d'établissements à une communauté, ben là, on est dans une logique exclusiviste qui frôle un peu, je veux dire, on ne peut pas dire de racisme, on parle beaucoup de racisme, mais on n'utilisera pas le mot justement pour ce genre de situation-là, alors qu'on va décrire des situations qui sont beaucoup moins radicales, en fait, et on va les décrire comme racistes. T'sais, on parle beaucoup de racisme systémique. Qu'est-ce que c'est quand même de réserver une garderie à des enfants d'une couleur de peau, d'une communauté, si ce n'est pas une forme. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est du racisme, mais c'est ce qu'on peut appeler de l'exclusivisme, hein, du communautarisme. Donc, la communauté prime sur l'individu. Je pense que ça peut être aussi un peu étouffant pour les gens des communautés culturelles. C'est-à-dire, est-ce que tous les nouveaux arrivants ont envie d'être finalement un peu prisonniers, hein, de leur communauté. C'est-à-dire, ça, c'est le risque aussi pour ces gens-là. C'est-à-dire, tous les Juifs n'ont pas nécessairement envie d'évoluer toute leur vie dans des institutions qui sont juives. Peut-être qu'il y a des jeunes Juifs qui ont envie d'évoluer dans des écoles laïques, etc. Donc, il faut se poser la question aussi des droits individuels chez ces gens-là. Mais c'est ça, on voit que bon, en Angleterre, en France, la ghettoisation est devenue radicale. Et ça crée en fait beaucoup de tensions entre la société d'accueil et certaines communautés.
Mais
Donc,
c'est quand tu te côtoies pas que tu n'arrives pas à te comprendre, tu n'arrives pas à te découvrir, tu n'arrives pas dans l'acceptation des différences de l'autre. T'sais, pour beaucoup de gens qui se qualifient eux-mêmes ou qu'on peut qualifier de personnes racistes, c'est dans l'incompréhension de l'autre puis la fermeture de vouloir dialoguer avec ces gens-là. C'est des gens qui ont peur de l'autre aussi dans certains cas. Mais si tu ne te mêles pas, si tu n'es pas capable d'avoir des activités quotidiennes partagées ou des conversations, je veux dire, c'est pas ça qui va créer une société en santé non plus.
Non, puis la xénophobie va persister si tu ne côtoies pas les gens des autres. Des autres religions, exemple. Là, dans ce cas-ci, pour ce qui est des CPE, est-ce qu'on cible les communautés? Ce qu'on me dit, c'est des Juifs puis des
Les tableaux sont. La presse indique clairement de quelle école il
Ouais.
s'agit.
Ce serait des Juifs
Donc,
puis des musulmans.
mais comme je vous dis, quand même aussi, il y a au moins une garderie arménienne. Bon, c'est quand même ce sont des chrétiens, haïtiennes, chinoises aussi. Donc, ça inclut des gens, finalement, qui ont la religion chrétienne. Mais on s'aperçoit, c'est ça, ça va dans les deux sens, l'intégration. C'est-à-dire, la société d'accueil, forcément, bon, fait un effort d'ouverture et les communautés arrivantes, les nouveaux arrivants doivent eux aussi, faire un effort pour aller vers le Québec de souche, entre guillemets. Donc, c'est vraiment une histoire symptomatique. Un peu de cet enfermement identitaire. En France, on parle beaucoup d'assignation en résidence identitaire, c'est-à-dire des gens qui effectivement deviennent, qui sont en fait même l'otage, un peu les otages des fois de leaders qui tiennent à garder leur communauté presque hermétiquement. Donc, tu sais, quand on dit, là, mettons qu'on parle de l'islamisme, quand on dit à quelqu'un, un jeune musulman, vous savez, la société dans laquelle vous évoluez, elle est impure. Bon, les femmes, elles n'ont pas le comportement adéquat, elles sont trop libertines. Donc, quand on se met à dire ça à des jeunes enfants, vous savez, vous évoluez dans une société, c'est ça, impure, amorale, décadente, vous devez pas vous mêler à ces gens-là qui sont finalement des infidèles. Là, je parle vraiment plutôt de l'islamisme, mais ça peut être vrai aussi dans le cas de certains groupes juifs. Ben là, on est carrément dans un repli identitaire qui n'est pas celui du Québec, qui n'est pas celui de la société d'accueil, mais qui est vraiment le repli identitaire de communautés culturelles. Donc, ça se joue vraiment à deux. Et le vivre ensemble, c'est ça. C'est un dialogue. Et dans le dialogue, forcément, il y a deux parties.
Ouais, là, ça arrive à Montréal, mais tu sais, le jour où ça arrivera à Québec, il va falloir se poser des questions, là. Est-ce que si ces gens-là décident de se partir avec leur association eux-mêmes des garderies, c'est-tu parce qu'ils ont l'impression que dans certaines garderies au Québec ou à Québec, on ne les accueille pas, on n'est pas assez accueillant envers les enfants qui sont issus de l'islam ou les enfants qui sont issus du peuple juif? T'sais, je me pose cette question-là.
Très compliqué. Ben, écoute, ça se peut que certains d'entre eux aient ce sentiment-là. Mais penchons-nous, par exemple, sur les régimes alimentaires. Quand vous êtes,
Ah,
par
ouais.
exemple, musulman, c'est-à-dire, est-ce que votre garderie, est-ce que votre CPE au Québec se conforme aux interdits alimentaires de l'islam? La réponse, c'est sans doute non. Donc, toute la question des menus, en fait, qu'on offre aux enfants, c'est extrêmement délicat. Donc, tu as probablement beaucoup de parents musulmans et juifs qui ne veulent pas envoyer leurs enfants dans des garderies québécoises, entre guillemets, parce que leurs enfants ne vont pas manger ce qu'ils, eux, prescrivent comme menu. Donc, ça, c'est comme, on n'en parle pas beaucoup, là, mais la nourriture, évidemment, conditionne beaucoup les rapports sociaux, là. Donc, ça, c'est comme quand vous avez un vegan qui vient chez vous à manger, ben on a envie de dire, ben là, c'est comme un peu asocial. Est-ce que nous, on mange ça? Est-ce qu'on va t'exclure? On va te servir autre chose? Mais il y a un caractère aussi social à manger ensemble. En tout cas, bref. Mais ça, on l'oublie. La bouffe, c'est très important. Et simplement pour cette raison-là, d'après moi, ces communautés-là ne vont pas être intéressées à aller vers des CPE où on serait du porc. C'est comme une impossibilité complète, là.
OK, ouais, ben je pense qu'il y a une piste, on est sur une bonne piste dans ce dossier-là. Hey, il reste à peu près une, bon, mettons 2 minutes, on a le temps d'en parler. Le fameux président salvatorien qui fait tant jaser, là. Lui, il se décrit lui-même comme un gentil dictateur. Je trouve ça assez particulier, mais il a fait carrément le ménage de son pays en très peu de temps. C'était la solution à ce pays-là, en fait, là, qui est un des pays où il y avait les pires crimes du monde.
C'est ça, ben j'ai publié un texte hier sur le blog du Conseil des relations internationales de Montréal sur l'étonnante révolution sécuritaire du président salvadorien. Et effectivement, c'est un type qui fait de plus en plus parler de lui sur les réseaux sociaux. On le décrit comme un dictateur cool dans les médias, etc. C'est quelqu'un, bon, qui a un look vestimentaire soit très décontracté ou des fois très chic, les vestes orientales. C'est un type d'ailleurs qui est d'origine palestinienne, donc Nayib Boukele de son nom. C'est aussi quelqu'un qui a adopté le Bitcoin, donc chez les Bitcoiners, c'est quelqu'un qui est très populaire. Donc, on m'a demandé au Corim de me pencher sur cette question-là. Effectivement, le type, en gros, a mis 80 000 personnes en prison en l'espace de quelques semaines. 80 000 personnes emprisonnées sans procès. Donc, c'est vraiment une révolution sécuritaire au Salvador, dont je reviens vraiment sur tous les détails de cette opération-là.
Mais on
Donc,
est-tu 100% d'accord, Jérôme, là-dessus? Parce que là, tu sembles dire que, bon, peut-être certains avaient besoin d'être emprisonnés, mais pour d'autres, c'est un petit peu aléatoire. Parce que Salvador, ça brasse depuis quelques années maintenant, puis il y a quand même des Québécois qui se sont investis en affaires dans ce coin-là. C'est une
c'est
destination qui
ça.
est prisée.
Non, moi, ben, en fait, mon texte est plutôt critique, même si les gens, peut-être qu'ils pourraient penser que je défendrais Nayib Boukele. Bon, c'est un ami de Javier Milei, un type que j'apprécie, le président argentin. Bon, c'est un type qui est près aussi de Donald Trump. Nayib Boukele, c'est pour ça qu'il fait beaucoup parler. Puis, probablement, il était récemment à Washington à une conférence de la CPAC. Bon, moi, je suis allé à l'édition mexicaine. Là. En bref, il y a tous ces réseaux-là de droite un peu libertariens, mais. Effectivement, suspendre les libertés constitutionnelles n'a absolument rien de libertarien. Donc, la question, c'est de savoir, bon, là, vous avez mis, bon, c'est vrai, des criminels en prison, mais combien de temps ça va durer? Il ne peut pas passer. Il va falloir rétablir, évidemment, l'indépendance du pouvoir judiciaire au Salvador. Et la manière forte, bon, c'est un peu la tentation de la facilité. Donc, c'est très facile. Donc, vous mettez des gens en prison rapidement. Les gens, après, se sentent en sécurité, mais combien de temps ça va durer? C'est ça la grande question. Donc, moi, je ne suis pas favorable, en fait, à ce qu'on appelle la normalisation de l'état d'urgence, l'état d'exception, c'est-à-dire comme on l'a vu durant la COVID, en fait. D'ailleurs, Bukele a un peu testé son opération durant la COVID. C'était un des pires confinements sur Terre au Salvador durant la COVID. Et un peu, bon, au Québec, ça a été très différent pour d'autres raisons, mais il a comme un peu testé ça, il a gardé ça pour finalement. Les criminels. Donc, c'est ça, au lieu de traquer les gens ordinaires, donc ça a été les criminels qui ont payé. Mais c'est sûr que c'est une réalité très particulière et on parle de gens évidemment qui font des actes de torture. Puis ça, c'est la Mara Salvatrucha, là, les MS-13. C'est pas des enfants de cœur, ces gars-là. C'est clair que ça prend des moyens pareils.
Exact. Ils sont facilement reconnaissables par leurs tatouages, là. Donc,
Exactement, mais
pour un soldat de la garde, quand il arrive à un endroit, il sait très bien à qui il a affaire, là. Il n'a pas besoin de se demander à savoir si ce gars-là, c'est un avocat ou un criminel. Dans sa face, c'est pas mal écrit 13 dessus.
ben c'est ça. Donc ça donne raison à Boukele dans le sens où si vous avez un tatou MS-13 d'en face, en général, c'est parce que vous appartenez à ce gang-là et que
Y en
vous
a-t-il
devez
qui
aller
se
en prison. Là.
repentissent, par exemple? Y en a-t-il qui décident de quitter ça?
La MS-13? Je pense qu'on ne peut pas. En fait,
On peut pas.
c'est
La
ça le drame
solution, c'est la
migratoire aussi.
mort. Ah, c'est super.
C'est ça. Mais plus que ça, ils font du recrutement forcé. Ou en endurance, c'est pareil. Donc, tu sais, c'est pour ça, moi, je suis très attentif et sensible aux réalités des migrants parce que souvent, c'est des gens qui émigrent d'abord pour travailler, puis pas pour conquérir ou pour imposer leur mœurs. En tout cas, dans le cas des Latinos, c'est des gens souvent, au Honduras, j'ai parlé à des migrants récemment au Mexique, je fais une entrevue avec eux et ils me racontaient que, bon, mané, quelqu'un vient cogner chez vous et demain matin, vous appartenez à un gang de rue et si vous refusez de joindre la gang de rue, on tue votre famille. C'est ça qui se passe. Donc, la MS-13, effectivement, Bukele a fait un ménage qui, oui, est nécessaire, mais comme je dis, il va falloir qu'il y ait un après. C'est-à-dire, après, il va falloir rétablir la liberté constitutionnelle. Parce qu'il ne faut pas que dans le monde, tout le monde commence à avoir ces projets-là. Il me semble que c'est efficace, ça, suspendre les libertés constitutionnelles. Ouais, mais là, si tout le monde commence à faire ça dans le monde, comprenez qu'on va vers des dictatures à gogo, là. Je me méfie, mais en tout cas, bref, j'invite les auditeurs à aller voir le texte parce que c'est un très long texte.
Ouais, puis c'est un président qui est très jeune aussi, début quarantaine.
43 ans, oui.
43, oui. OK.
C'est un personnage original, de recours aux réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien Instagram, tout ça.
Mais c'est-tu un manipulateur aussi? Est-ce que de la manipulation, c'est souvent dans la politique, il y a quand même
Est-ce
des
que c'est un
portions où il y a
politicien?
des.
Oui, c'est un
Ouais, je vais pas
manipulateur.
faire cet amalgame-là, parce qu'on a quand même des bons politiciens là, qui se sont présentés dans le temps pour les bonnes raisons. C'est sûr que de gérer un pays du type avec une criminalité du type, c'est particulier, mais est-ce que c'est un président qui pourrait être aussi bon pour des gens qui sont pas dans la criminalité ou?
Je sais pas, ben tu sais, c'est sûr que oui, c'est quelqu'un qui a des intérêts aussi, là. C'est pas quelqu'un qui est blanc comme neige. Puis on soupçonne d'ailleurs qu'il y avait un accord secret entre le gouvernement puis ce qu'on appelle les pandillas, là, les gangs. Donc l'accord secret entre le gouvernement et les gangs aurait été rompu avant qu'on fasse la chasse aux gangs. Donc, il y a toutes sortes d'éléments un peu louches au travers, puis ça reste l'Amérique latine. Donc, il y a toujours des éléments de corruption, là, t'sais. Donc, je pense qu'il ne faut pas lui faire confiance aveuglément. Et c'est ça, on a beaucoup de gens, c'est ça, dans la communauté de Bitcoiners, tout ça, qui l'adorent. Moi, je leur dis oui, je pense que c'est un type qui est intéressant, mais il faut pas tomber dans l'idolâtrie, là. T'sais, c'est, honnêtement, ça reste un politicien qui a des intérêts, qui doit effectivement composer avec toutes sortes de pressions aussi, de lobbies, forcément. Il faut se méfier quand même du culte de la personnalité, finalement, là.
Les impacts pour nous ici, il y en a-tu? Parce que
Ben,
dans
c'est
les
la.
relations internationales, souvent, il y a quand même des choses à
Oui, bonne
considérer, mais.
question. Ben, en gros, chose certaine, il va y avoir moins de migrants salvadoriens qui vont aller à la frontière américaine. Fait que ça, c'est bon pour nous parce que, bon, c'est bon pour les États-Unis. Puis là, bon, Trump a évidemment projet de déporter un certain nombre de gens vers ces pays-là. Forcément, l'Amérique centrale, ils vont sûrement récupérer beaucoup de gens parce
Ouais.
que c'est des centraux américains qui vont à la frontière américaine aujourd'hui, là, plus que des Mexicains. Les Mexicains ont arrêté, ben, il y en a encore beaucoup, mais c'est beaucoup les centraux américains. Donc, Honduras, Salvador et voyons, il y en a un troisième, là.
Nicaragua, ça se peut-tu?
Exactement, c'est ça. Mais lui, ouais, c'est ça. Je pense que Bukele va freiner l'exode migratoire. Donc, ça va diminuer la pression sur la frontière américaine. Donc, ça, c'est bon. Donc, si Donald Trump se met à déporter des gens, on va recevoir moins au Canada.
Ouais, ça, c'est un avantage, désavantage.
Assez
Ça
gros.
dépend. Ça dépend si on regarde le plan politique, le plan humain, là.
Jérôme
Et
Blanchet,
si...
oui,
Oui.
Jérôme Blanchet-Gravel, je te souhaite de passer un beau voyage en Europe, puis reviens-nous avec de bonnes histoires.
Oui, bien, on peut faire la semaine prochaine, je peux faire la chronique de Paris si on a une bonne connexion, mais oui, ce Paris est quand même un endroit où il y a des bonnes connexions Internet, là.
Tant que tu t'inventes
Parfait.
pas un accent.
Ben non, je suis pas bon côté.
Mais il parle déjà.
Ah, oh, il plante quelqu'un.
Mais il parle déjà comme un journaliste international, Jérôme. C'est un plaisir.
Merci, bye.
Salut, Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média, à qui on aime bien jaser à chaque semaine. Il fut un temps, Pascal, je ne me rappelle pas, les auditeurs ont peut-être une meilleure mémoire que moi à ce niveau-là. Là. Textez-moi 88-971-1021. Mais quand il y a eu la grosse guerre là, entre les Rock Machines et les Hells Angels, je pense que c'était Shark qui était là-dedans, Opération Shark et tout ça. Si tu te faisais prendre avec un crest des Hells Angels, tu t'en allais automatiquement en prison pour une couple d'années. Je ne me rappelle pas c'était quoi le nombre d'années, mais c'était assez sévère comme sanction que les gars, ils s'affichaient plus. Ils avaient leur crest quand même, mais ils mettaient leur gros gilet capuchon par-dessus pour pas que la police puisse les accuser de quoi que ce soit.
Ouais, pour pas qu'il y ait des gens qui soient bon, qui contemplent un peu ces choses-là, qui se posent des questions, qui un genre de propagande d'une manière ou d'une autre. T'as raison. Mais ça, oui, c'est arrivé.
Ouais.
Mais oui, t'as raison, ça a été terminé, je pense, en mesure punitive, parce que dans les dernières années, on en a vu, puis c'était surprenant. De dire, hey, voyons.
C'est revenu.
Un côte. Ouais, il y a eu quelque chose. C'est bon, ça faudrait chercher.
Puis, tu sais, pour ce qui est du MS-13, ces gangs de rue-là, c'est très clair. Tu es tatoué à l'image du gang de rue. Tu peux pas dire, ah non, mais je suis pas là-dedans, c'est parce que tu as le 13 dans le front. Là.
Sauf que, mettons, il arrive chez vous, tu t'as dit non.
Ouais.
Puis là, il arrive, branle-bas de combat, puis tu tatoues quelque chose. Ouais.
C'est des pays qui sont un peu plus rough qu'ici.
Un peu?
Ouais.
Oui, mais c'est vrai qu'il faut avoir des considérations à regarder aussi. Tu sais, quand on parlait, là, je ne veux pas faire d'amalgame et de recoupement bizarre, là, mais c'est super important de se parler entre communautés. C'est super important d'avoir un côtoiement des valeurs, de la culture, de ci, de ça. Tu sais. Puis on le voit aussi dans le crime organisé, des gens qui arrivent ici qui n'ont rien, puis que leur manière peut-être de se sauver, ça va être de tomber dans quelque chose de plus facile, étant le criminel, au lieu de les d'offrir une implantation humaine et totale au pays puis dans notre communauté.
Moi, j'ai pour mon dire, si tu reproduis le modèle que tu as fui, il y a peut-être un problème.
Mais si c'est ta seule façon de faire, t'es une mauvaise personne pour autant.
Ben, si tu fais des crimes puis tu tues des gens, t'es une mauvaise personne.
Oui, mais c'est un devoir collectif et gouvernemental de s'assurer que ces gens-là aient une possibilité de deuxième vie pour vrai.
Ouais. On va se le souhaiter. 13h42, on fait une courte pause, on vient. Marceau, le